à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio La Nouvelle Génération. Nous y sommes et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Je sais que vous nous écoutez peut-être partout dans le monde et aussi chez vous à la maison ou peut-être à l'atelier ou encore au niveau alors de votre bureau, vous nous écoutez. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le Togo appartient à tous les Togolais, pas seulement aux gouvernants, pas seulement à l'opposition. Il y a une chanson que nous exécutions par le passé, chanson dans laquelle nous disions à peu près ceci. Le Togo était un ballon que tout le monde jouait. Ma question est de savoir si le Togo devait rester un ballon que les gouvernants et l'opposition doivent se renvoyer. Faudra-t-il que les gouvernants et l'opposition continuent alors de se jouer des Togolais dans leurs intérêts égoïstes? Le temps n'est-il pas venu de donner un carton rouge à ces deux protagonistes qui s'arrangent pour nous pourrir la vie? Ne l'oublions pas, ils ont des lieux de rencontre dans différentes loges dans lesquelles se prennent les décisions dans notre dos. Cela doit cesser. C'est un extrait de la déclaration du père Séverin Gapé sur la situation sociopolitique du pays. Le sujet nous intéresse. Nous allons l'aborder dans cette émission Club de la Presse et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 25 juillet 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'ATVI assure la mise en onde. Jérôme Dacoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous le savez bien, vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site internet www.canalfm.com et aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, analystes politiques dans cette émission. Analyste politique, Gabin Adjarou, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonne fin de semaine à tout et chacun.
D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Firmin Takouagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
Et j'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est toujours avec nous.
Et c'est l'essentiel, Dieu est avec nous et nous avons le souffle de vie. Et nous avons aussi la bonne santé et ça, on doit rendre grâce pour cela.
Exactement, exactement. Et avant de passer le micro, je voudrais souhaiter bonne fête à nos frères Kabien qui sont en plein Évala. C'est un moment très festif et très spirituel pour ce peuple. Que Dieu leur donne ce que leur cœur désire tant et que la fête soit toujours belle.
D'accord, et que la fête soit toujours belle. Lui n'est pas Kabien, mais il s'intéresse à la culture aussi. Hein. Je veux bien parler alors de Elom d'Almeida. Elom, vous vous intéressez à la culture. Bonjour d'abord.
Oui, bonjour Monsieur Pascal, bonjour à vos auditeurs. Naturellement, je m'intéresse à la culture en tant que, à une certaine époque, en tant que jeune. Nous avons commencé dans la culture, nous étions avec les artistes à soutenir ce qu'on peut soutenir et c'était intéressant.
C'était intéressant, vous êtes aussi analyste hein, politique et vous êtes même d'ailleurs conseiller régional et vous faites bien d'être avec nous pour analyser aussi des sujets de l'actualité de notre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui n'est pas moins analyste que les autres. Et je veux bien parler de Sami Orosama. Sami, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout, à Lomé et dans les localités environnantes. Mes salutations fraternelles à un fidèle auditeur de cette émission Club de la Presse depuis le quartier Avedji, Gilbert Coiffure dit la maestra. Il se fait appeler le professeur de la coiffure au Togo.
Le professeur de la coiffure, ça en dit long là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, autre personne bien sûr qui a accepté notre invitation et nous voudrons justement discuter d'un projet avec lui, c'est bien Max Eman Boyodé. Max, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, Pascal.
Ça va, par la grâce de Dieu, mais puisque artiste de votre état, je sais que vous êtes artiste, mais quand j'écoute la voix, c'est comme si la voix reçut un coup là.
Oui, c'est vrai, parce qu'on travaille tout le temps. Il faut crier tout le temps, faire des exercices vocaux. Mais il y a aussi que le cerveau aussi est un peu chaud. À tout moment, le cerveau est chaud parce qu'il faut toujours réfléchir. Moi, j'espère que ça viendra au fur et à mesure de l'émission.
Ça viendra au fur et à mesure, justement, de l'émission. Voilà, ça fait plaisir hein, de vous avoir avec nous. C'est vrai, si vous êtes là avec nous, c'est parce que vous avez un projet, bien sûr, et le projet, vous avez porté ce projet à ma connaissance, et j'ai trouvé quand même le projet intéressant, c'est par rapport à la réduction de la taille alors de l'habitat. Vous proposez quelque chose alors de ce genre, concrètement, qu'est-ce qui vous motive d'abord à initier un tel projet?
Et c'est ce qui se passe actuellement, vous voyez. Ça dit, d'une part, vous avez fait le truc là au début de l'émission. La situation socio-économique, la nature même de nos États, la nature de nos États. Le Togo, c'est la terre de nos aïeux, c'est nos ancêtres qui se sont rassemblés pour créer le Togo, alors qu'en réalité, l'État togolais n'est pas ça. L'homme qui est venu trouver un terrain d'exploitation et qui est parti à cause des problèmes de relations internationales dans les années 60 après la Deuxième Guerre mondiale, a essayé de laisser un canevas en 60.
Je vous prierai alors de vous approcher plutôt alors du micro de Gabin.
Alors je crois que il faut d'abord comprendre l'origine de nos États. Nos États ne sont pas la création de nos ancêtres, c'est un terrain d'exploitation du colon. Le colon est parti depuis nos indépendances, on a continué à exploiter le pays comme le colon a voulu, pour ses intérêts. Depuis 90, encore à cause des tensions des relations internationales, la chute du mur de Berlin, il y a eu un mouvement qui a été lancé. On parle d'alternance, mais juste à ce jour, on est dedans. Même des pays qui ont connu des alternances politiques sont des pays déstabilisés de nos jours. C'est vrai, nous, on n'en a pas vraiment connu, mais pratiquement, c'est la même chose. Donc, il faut se demander d'où viennent réellement les problèmes de l'Afrique ou du Togo. Quelles peuvent être des pistes de solutions? Et ces pistes de solutions, où la solution unique qu'on doit trouver doit être exhaustive. À Alors là, il faut vraiment prendre du recul, avoir une vue d'ensemble des problèmes du pays et proposer quelque chose de mieux pour résoudre d'une seule façon, d'un seul coup, tous les problèmes, vous voyez.
D'accord. Mais quand vous proposez la réduction de la taille de l'habitat, concrètement, ça va consister à faire quoi?
D'abord, il faut commencer par la mutualisation des moyens de production. Maintenant, réduire la taille de l'habitat, proprement dit, pour pouvoir passer à une économie communautaire. Mutualiser les moyens de production, on ne peut pas avoir toujours des prêts, des assistants de la Banque mondiale et du FMI pour développer notre pays. Il faut laisser tout le monde, il faut laisser ceux qui ont des moyens investir pour pouvoir exploiter le pays. Et maintenant, ça dit quand on réduit la taille de l'habitat, on dégage de l'espace. Maintenant, on prend les moyens des citoyens locaux, les plus riches investissent et les gens travaillent. Je vous donne un exemple. Quand on prend la région des plateaux, il y a plus de cabillets, plus de personnes originaires de la préfecture de la Kosa que dans la Kosa elle-même. Ils font quoi là-bas? Ils ne font que cultiver. Ils sont des agriculteurs. Si on réduisait la taille de l'habitat, par exemple, la région des plateaux est une bonne région pour l'agriculture. Ouais. Ainsi de suite, les transformations, les micro-transformations, ainsi de suite. Et on bâtit une économie communautaire. Ça veut dire que chaque citoyen devient épanoui. Quand il se réveille, il a où il loge, il a tout ce qu'il faut. Mais il a maintenant juste l'obligation de travailler pour pouvoir consommer. Donc c'est ça l'idée, l'esprit de l'économie communautaire. Donc il faut sortir de ce schéma de monnaie, d'argent, de quoi que ce soit, mais d'abord faire en sorte que tous les citoyens soient épanouis. Je crois que c'est le problème, c'est ce qu'il faut, c'est la manière, c'est la seule manière, ou la manière intelligente qu'il faut, qu'il nous faut, que les dirigeants, ceux qui nous dirigent, comprennent que c'est ça, que les hommes politiques comprennent qu'il faut réfléchir à une manière pacifique et exhaustive de trouver de recherches de solutions à nos problèmes.
Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on cherche vraiment des solutions à nos problèmes aujourd'hui?
Non, je ne crois pas. Peut-être on croit chercher, mais on n'est pas sur la bonne voie. On est sur des voies sans issue. On est sur des voies sans issue. Parce que déjà, nous sommes dans un système capitaliste. Le capitalisme, il ne répond pas à nos valeurs. Aujourd'hui, aucun fonctionnaire togolais ne pourra me dire que son salaire le suffit à lui seul et sa famille et ses enfants. Jamais. Il y a un cousin, il y a un oncle, il y a ceci, il faut toujours partager. C'est l'essence de l'Afrique. Maintenant, de l'autre côté, c'est que chaque année, il y a la croissance démographique. Chaque jour, il y a plus d'enfants. Il y a l'extension du territoire. Quand vous allez sur les sites officiels de l'État même, vous verrez que la CET, la TDE, les écoles, ceci, l'État même évoque ce problème de dispersion. Parce que chaque année, il y a encore plus de populations qui occupent des terres et il faut amener le courant là, il faut amener l'eau, il faut construire des salles de classe, il faut faire ceci. Tout devient urgent. Donc en ce moment, il faut penser à une manière exhaustive de résoudre tous ces problèmes. Donc réduire la taille de l'habitat. L'habitat est dispersé jusqu'à 5 AC. Et c'est un autre problème. C'est parce que certaines populations sont isolées quelque part que les terroristes arrivent à entrer là-bas et les menacer. Donc si on réduit la taille de l'habitat, on peut prendre une seule région, peut-être sur 50 km carrés, ça suffit largement pour loger 10 millions d'habitants.
Maintenant, la décision doit venir de qui par rapport à ce projet ça doit venir de qui?
Cette décision doit venir de nous tous.
C'est à nous de porter. Il y a des gens quand même qui sont aux commandes alors du pays.
Justement, c'est à nous de porter le truc pour que ceux qui sont aux commandes comprennent qu'il y a quelque chose d'urgent, de plus urgent à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, ils dirigent. Leur priorité, ils vont nous dire, c'est pour créer des emplois, c'est pour construire des hôpitaux, c'est pour faire ceci. Mais tout le monde sait que dans l'état actuel de la dynamique des populations, c'est impossible de faire tout ça en même temps. Alors que si on réduisait la taille de l'habitat, ça sera plus facile. Parce que lors du processus même de réduction de la taille de l'habitat, lors de ce processus, il y aura aussi création de beaucoup d'emplois et il y a beaucoup de gestionnaires qui seront en même temps en train d'étudier la faisabilité, vous voyez, le passage de l'économie capitaliste à l'économie communautaire. Il y a des sociologues qui vont salir, tous les corps de métier seront mis en jeu. Donc
personne ne dira plus qu'il est allé à l'école, il n'a pas de ceci à faire ou quoi. Tout le monde se réveille, c'est que désormais le travail est obligatoire. On n'a pas forcément besoin que l'argent circule. On a aujourd'hui, un peu partout, même dans nos pays, ceux qui ont des moyens utilisent des cartes de crédit. Ces cartes de crédit peuvent être maintenant créditées en heures de travail et on consomme à partir des heures de travail. C'est mieux que de voir des jeunes dans la rue se battre simplement parce qu'ils cherchent du boulot. C'est vrai qu'actuellement, on peut maîtriser, hein, on peut maîtriser certains en faisant circuler des chars, en les faisant peur, en mettant certains dans des lagunes.
Mais est-ce que c'est là la bonne méthode?
Alors que ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la solution. De même, vous voyez que quand on ne réduit pas la taille de l'habitat, quand on ne mutualise pas les moyens de production, beaucoup de richesses sortent du pays. Actuellement, il y a des gens en exil. D'autres meurent avant même de revenir. Pourquoi? Et aujourd'hui, l'intention, le fond de la pensée des gens, chasser ceux qui sont au pouvoir. Alors qu'ils vont partir du pouvoir, vont rejoindre l'étranger, l'extérieur, avec aussi des moyens togolais. Et ces moyens vont servir à quoi? Financer encore la déstabilisation du pays. Donc, il faut avoir un projet de société pérenne, stable, que tout le monde promeut et on met en place.
D'accord, merci beaucoup Mars. Samir, si vous avez écouté l'artiste avec son projet de société, bien sûr, et c'est un projet qu'il envoie même d'ailleurs aux dirigeants alors du pays, mais est-ce que vraiment ce projet sera audible devant justement les responsables, les autorités du pays?
Ben écoutez Pascal, je pense que primordialement toute contribution venant d'un citoyen, quelle qu'elle soit, je pense qu'elle est la bienvenue d'ailleurs. On peut trouver ce qui peut être utile au développement du pays, on peut améliorer un certain nombre de choses, mais fondamentalement je pense que l'État dans son rôle régalien c'est de faire en sorte que les zones soient urbanisées, que les voies soient tracées, que l'électricité aille partout où il y a la trace humaine, qui est de l'eau potable, qui est tout ce dont l'on a besoin pour survivre dans une zone donnée. Maintenant, l'État ne peut pas contraindre les populations à se sédentariser dans un lieu précis. C'est-à-dire que ça fait partie même des droits fondamentaux de l'homme. La liberté d'aller et venir, la liberté de s'installer là où on se sent beaucoup plus mieux, là où on peut exploiter un certain nombre de compétences, un certain nombre de potentialités véritablement. Mais je pense que au-delà, on peut réfléchir à tout cela, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans la planification du développement dans nos États, pour que l'État puisse construire une école, pour que l'État puisse construire un centre de santé, pour que l'État puisse tracer une route goudronnée, donc mettre du goudron et tout, on tient compte de la démographie. C'est pour ça, en fait, quand vous prenez un peu certaines contrées, vous allez voir certaines contrées ou certains villages où il y a moins de démographie, donc moins d'existence humaine. Et donc, ce qui fait que ce petit nombre donc de citoyens sont obligés, pour avoir accès à l'école, de parcourir une longue distance, pour avoir de l'eau potable, de parcourir une longue distance pour se soigner lorsqu'on est malade. Parce qu'en fait, dans la projection de la mise en œuvre de politiques publiques, il faut tenir compte de l'efficacité. Parce que l'État n'a pas énormément de moyens. Donc, il faut tenir compte de l'efficacité. On ne peut pas mettre en place un centre de santé dans un lieu où c'est 5 personnes qui fréquentent ça. Il faut mobiliser le personnel. Il faut mettre en place le plateau technique. Il faut payer les gens et tout cela. Et donc, c'est en cela que je peux le rejoindre, de faire en sorte que dans l'urbanisation donc, de nos localités, on fasse en sorte qu'il y ait une rotation, ou une existence humaine dans une zone donnée, qu'il y ait beaucoup plus de concentration. Et l'État doit pouvoir programmer le développement de certaines villes. C'est à ce point que l'État a failli, je vais chuter par là, c'est à ce point que l'État a failli. Aujourd'hui, vous prenez certaines zones qui sont surpeuplées. Vous prenez certaines localités qui sont surpeuplées, alors que nous avons assez d'espace ailleurs, nous avons assez de potentialité ailleurs, ce qui fait que
on ne maîtrise pas le développement de nos villes, on ne maîtrise pas le développement de nos communautés, tout cela. Et ça, c'est une perte à gagner pour l'État.
D'accord.
Et ça ne permet pas aux populations de mettre en œuvre toutes leurs potentialités, toutes leurs compétences en termes financiers, en termes de talent et tout cela pour le développement.
D'accord. Oui, d'abord, comment vous appréciez ce projet?
Ouais, c'est une très bonne idée parce que vous savez, dans la plupart de nos pays, on assiste à une urbanisation anarchique. C'est comme si le pays n'a pas véritablement de projet. Chacun construit là où il doit construire. Et pendant les périodes de pluie, on assiste à un certain nombre de choses. Maintenant, si l'État va prendre en compte le logement des citoyens, je pense que ça va beaucoup plus aider et on va beaucoup plus assister à la rationalisation de l'exploitation de nos terres. De nos terres. C'est très important parce qu'on ne peut pas se permettre de construire même là où il peut y avoir des cultures et autres. Donc, aujourd'hui, dans d'autres pays, les gens sont en train de penser beaucoup plus à une rationalisation parce que la population augmente au jour le jour et on doit faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'espace cultivable pour les populations pour que, bon, au moins ceux qui naissent puissent être bien nourris. Moi, j'étais au Sénégal et vers à Diem Niadio, là où le stade a été construit, mais j'étais heureux de voir qu'il y a des pays qui réfléchissent en ce terme-là. Parce que quand tu parcours la ville, il y a des zones qui ne sont pas encore habitées, mais on a bitumé la route dans la forêt. Et l'État était en construction de 200 logements pour permettre aux gens de venir loger là. Il y avait déjà une école, il y avait déjà la bonne fontaine et tout. Et il y avait des infrastructures qui permettaient, qui va attirer beaucoup plus de gens à venir loger dans cette localité. Et l'État a mis en place un système de logement. Et c'est pas des logements juste comme ça. Vous allez amener des courants électriques. D'ailleurs, il y a déjà des lampadaires qui sont alimentés avec des panneaux solaires. Donc, ils sont en train de penser beaucoup plus à une ville écologique. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est très important. Quand on prend les plateaux et autres, là, je pense qu'on ne doit pas permettre à ce que les gens construisent de manière anarchique. Et quand on prend même sur la nationale numéro 1, ceux qui vont la plupart du temps au nord, on prend un village. Et moi, quand on me dit à Djingré, mais c'est un petit village. Mais il faut voir l'étendue du territoire. Et tu comptes le nombre de personnes qui habitent dans ce village-là. Sincèrement, c'est abusé, en fait. Donc, à un moment donné, nous devons, puisque nous constituons, ou bien nous sommes censés être une nation, même si la personne n'est pas de cette zone-là, on peut faire en sorte que d'autres personnes viennent habiter dans ces zones et permettre à ce que le reste de l'espace soit exploitable pour l'agriculture, pour nourrir le reste de la population.
Merci Gabin, oui. Et l'homme, c'est vrai qu'il est dit ces derniers temps que l'Afrique, là nous parlons de notre continent, que c'est le continent de l'avenir, mais au même moment, les citoyens alors de ce continent ne voient rien à l'horizon. Mais on se pose la question, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce ne sont que des propos peut-être pieux?
C'est pas des propos pieux parce que effectivement l'Afrique est l'avenir du monde. Mais cela, notre ami répond d'une façon ou d'une autre à cette inquiétude des populations. Par exemple, moi j'ai retenu de ce qu'il a dit trois choses. Premièrement, c'est que le questionnement est le début de la sagesse. Il est en train de se questionner. Et les dirigeants aussi doivent pouvoir se questionner. On a l'impression que les dirigeants, en Afrique en général, ne se questionnent pas souvent, ou bien assez, pour donner des pistes de solutions, quitte à échouer et à refaire quelque chose. Ensuite, il a parlé de l'assistanat. En Afrique, nous devons sortir de l'assistanat. Nous devons commencer par réfléchir par nous-mêmes. Des pays l'ont expérimenté de gré ou de force, comme les pays de l'AES. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils sont en train de l'expérimenter. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils sont en état d'état failli, comme on a voulu leur faire croire. Et finalement, il a parlé également, j'ai retenu également de ce qu'il a dit, l'authenticité. L'authenticité, et vous voyez que des pays comme le Qatar, qui sont des petits pays, des pays pauvres jadis, des pays encore plus pauvres que certains pays africains, aujourd'hui, sont mieux. Et arrive même à se projeter dans le monde. Vous voyez comment le Qatar est petit, mais ils arrivent à se projeter dans le monde. Quand vous prenez un pays comme Dubaï, qui
qui aussi a eu cette époque.
Est-ce que ce n'est pas parce que ces pays ont su tracer une trajectoire et au-delà de cela, il y avait une vision bien précise et que chaque dirigeant qui accède au pouvoir arrive à rester dans cette vision?
Justement, il faut que quelqu'un donne le là. Il faut que quelqu'un donne le là. Comme au Togo aujourd'hui, on nous a donné en griffe la 5e République. Si cette 5e République répondait à une certaine vision de grandeur ou bien de vision à long terme qui épouse l'assentiment de la population, je pense qu'on en serait là. Quand vous prenez par exemple, je vais finir par là, quand vous prenez par exemple Dubaï, pour ceux qui sont dans les business, la TVA est à 5%. Alors que la TVA est à combien au Nigeria? Quand vous prenez Dubaï, quand vous envoyez l'argent à quelqu'un à Dubaï, c'est sûr qu'il va vous livrer. Mais quand vous envoyez l'argent à quelqu'un au Nigeria, à 95%, vous ne serez pas livré. Donc, il faut que les gouvernants et les populations soient dans une dynamique. Mais il appartient, comme je le dis toujours, aux gouvernants de tracer le chemin. Pas un chemin qui retourne uniquement à eux-mêmes, mais un chemin qui de prospérité, qui fleurissent en direction des populations.
D'accord. Oui, Firmin, c'est vrai que quand on parle du développement de l'Afrique, il y a certains observateurs qui aiment souvent dire que nous-mêmes Africains ne sommes pas sérieux ou assez sérieux alors par rapport, enfin, vis-à-vis de nous-mêmes. Et aussi, il y a certains qui disent que, mais écoutez, nous ne travaillons pas assez.
Donc, vous voyez, tout ce que vous avez évoqué, ça vous dit simplement que nous sommes perdus. Et moi, je rejoins notre artiste. S'il est arrivé à ce niveau de raisonnement, c'est parce qu'il a compris à un moment donné que nous cherchons en fait la voie par laquelle nous pourrons, ou la meilleure voie à adopter, nous n'avons toujours pas trouvé cela. Vous voyez, il dit par exemple, il parle de démographie, et de l'autre côté aussi, il parle de nos réalités. Vous imaginez, ça veut dire qu'en réalité, jusqu'à présent, on est perdu, on ne sait même pas là où on va. C'est pour ça que moi, je peux vous assurer, si Dieu nous donne...
Mais est-ce que là, ce n'est pas parce qu'il manque un éclaireur?
Non, c'est parce que simplement, nous sommes perdus, nous ne savons même pas là où nous allons.
Mais il faudrait que quelqu'un soit là pour dire, mais écoutez, je voudrais vous amener ici.
Voilà, c'est pour cela que bon, des gens comme cet artiste-là, on en a besoin pour amener les gouvernants à se dire, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes en train d'aller? La première chose, par exemple, sur le plan institutionnel, nous sommes perdus. Quand les gens applaudissent aujourd'hui le Bénin, les gens applaudissent aujourd'hui le Sénégal, moi je m'en moque. Des années plus tard, vous allez voir, il y aura encore des problèmes institutionnels au Sénégal. Parce que ça ne reflète pas nos réalités. Les gens applaudissent aujourd'hui, talent, on dit, il va partir, tout ça. Mais ça ne répond à rien. C'est parce qu'on veut faire comme les Blancs. On va deux mandats, il va faire. Mais est-ce que dans nos coutumes, dans nos traditions, est-ce que c'est deux mandats? Ou dans nos conditions, dans nos coutumes, c'est trois mandats, c'est quatre mandats? On est perdu. On est dans le copier-coller, ça ne marchera pas. Si aujourd'hui ça marche, dans 20 ans, ça ne marchera pas.
Mais, peut-être que je pourrais être d'accord avec toi, mais au-delà de tout, c'est des règles que nous nous sommes données. Il faudrait que nous respections ces règles.
Non, est-ce que les règles-là viennent de qui? On a pris, on a copié, tout ça reflète nos réalités. C'est pas parce que Adjo Kossi gère sa maison comme ça que moi je vais aller voir et dire que voilà les règles. C'est par rapport à cette réalité qu'il a établi ces règles, ce règlement intérieur. Toutes les entreprises n'ont pas le même règlement intérieur. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que moi je dis le problème, c'est par rapport à nos réalités. Sur le plan extérieur, nous sommes perdus. On a plus le Sénégal parce que quoi? Le Sénégal, c'est la capitale de l'Afrique francophone. Vous imaginez? C'est-à-dire
La OEF,
c'est ça, non? La OEF, Afrique occidentale française. Vous imaginez? Donc c'est pour cela que ça ne marchera pas. Dans 20 ans, ça ne marchera pas. Même au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas un plan de développement. Ça veut dire que c'est un problème de ne pas se développer. Soyez-en sûrs. C'est une réalité. Nous sommes perdus sur le plan institutionnel. Ça, c'est par nos constitutions. C'est pour cela que moi, j'applaudis un peu ce que le Togo a fait en quittant un peu la 4e République, la 5e République. On se cherche. C'est un exemple. On va voir si ça va marcher ou pas. Ils ont refait vraiment nos réalités. Si c'est dans 5 ans, ça va marcher. C'est pour cela que vous ne voulez pas voir. Regardez. Quand vous voyez par exemple, tous les régimes parlementaires, aucun régime parlementaire ne ressemble à l'autre. Le régime parlementaire qui se pratique en Grande-Bretagne, ce n'est pas le même régime parlementaire qui se pratique au Luxembourg. Ce n'est pas le même régime parlementaire qui se pratique en Espagne. Donc le Togo, on s'est appris un peu. Par exemple, le père du régime parlementaire, c'est qui? C'est la Grande-Bretagne. Après, les Espagnols s'en sont inspirés. Après, les Israélistes s'en sont inspirés. Aujourd'hui, le Togo aussi est en train de se chercher. Tout le monde se cherche. Dans la deuxième chose,
c'est quoi? Pourquoi aller se chercher en Europe?
Oui, c'est parce que c'est
des personnes. Il faut se chercher en Afrique.
Voilà, c'est pour cela que je me dis, en réalité, le problème institutionnel va se régler par rapport à nos réalités. Et la deuxième chose qui est importante, et dont Sarkozy parle tous les jours, et Sarkozy dit, le problème démographique, nous ne l'avons pas encore connu. Qu'à l'avenir,
Il faudrait qu'on mette en place une institution à l'international qui puisse gérer ça. Parce que c'est par rapport à la démographie qu'on pourrait avoir la meilleure politique publique.
D'accord. Ok, merci Firmin. Oui, chers confrères, nous allons aborder un autre sujet. On aborde maintenant ce sujet qui est dans l'actualité. Je veux bien parler alors des élections. Depuis lundi, on connaît les résultats provisoires de ces élections. Et ces résultats provisoires font état de ce que l'UNIR, le parti au pouvoir, a raflé pratiquement 75,31%. Soit 1150 hein, sur les 1527 conseillers municipaux. Samir, vous avez suivi de bout en bout aussi les élections et au-delà de tout, vous avez suivi également les résultats. Quelle appréciation vous faites, bien sûr, de ces résultats?
Ben écoutez, Pascal, pour avoir été candidat également à ces élections municipales, je pense que dans l'ensemble, nous renforçons davantage notre maturité politique. Vous savez que par le passé, le Togo s'est illustré sur la scène internationale comme un pays qui a toujours connu des violences lorsqu'il y a des élections. Depuis un certain temps, nous ne connaissons plus ces heurts, ces violences et tout cela. Je pense que c'est un acquis. Quoi que les gens puissent dire, c'est une avancée considérable dans notre quête de la démocratie et de l'état de droit. Donc, je voudrais féliciter donc la Commission électorale nationale indépendante, qui est l'organe qui organise et supervise donc ces élections-là. Et le gouvernement, pour l'appui financier qui a été apporté dans l'organisation de ces élections-là, et dire qu'en fait, au-delà des dysfonctionnements qu'on a pu remarquer ici et là, au moins on a fait un pas important vers l'avenir. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que nous avons connu un taux de participation de 55,02. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce taux-là est meilleur que ce que nous avons connu en 2019. En 2019,
52,46%.
Absolument. Donc vous comprenez, quoi que les gens puissent dire, je pense qu'il est important qu'on ait à l'idée que nous avons pratiquement 4 millions d'électeurs. Et le monsieur ne regorge même pas la moitié des électeurs. Est-ce que... C'est statistique, c'est factuel. Le monsieur ne regorge pas la moitié donc, des électeurs. Donc, se baser sur ce qu'on a pu constater à Lomé, c'est vrai, il y a une faible affluence, il y a une faible participation à Lomé, mais dans les autres localités, puisque le Togo compte énormément de localités, énormément de régions, il y a eu une certaine effervescence, une certaine considération donc des populations vis-à-vis donc de ces élections. Et que, malgré que les gens ne se sont pas déplacés pour ces élections, pour les 6 années à venir, dans les différentes communes, toutes les tâches qui vont être adoptées dans le cadre donc de l'exécution des politiques publiques locales, nous tous, nous allons subir. Ceux qui sont allés voter et ceux qui ne sont pas allés voter, nous allons payer ça, qu'on le veuille ou non. Donc, le fait de s'abstenir et se glorifier d'avoir empêché qu'il y ait une certaine participation active. Merci. À ces élections, c'est-à-dire que c'est du leurre véritablement. Et donc, moi, je pense qu'il est important que tous les acteurs, non seulement les acteurs politiques, mais également les listes indépendantes, qu'on se questionne véritablement. Est-ce que, après ces élections-là, qu'est-ce qu'on a pu obtenir comme acquis? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi? Parce que vous l'avez évoqué, l'UNIR a remporté une grande partie des sièges. Ce qui n'est pas normal dans un pays. Ce qui n'est pas normal. Je pense que l'UNIR même ne doit pas être content de ce fait-là.
Eh bien, nous sommes sur un terrain politique. Donc, comment se fait-il que l'UNIR ne doit pas être content?
Mais oui, Elom, c'est vrai que, oui, quand on prend aujourd'hui le taux de participation, c'est 55,02% contre 52,46%. Hein. Même moi, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur le taux d'abstention, le taux d'abstention qui est à 46%. Mais est-ce que ce n'est pas trop ça?
Non, est-ce que ce taux, véritablement, n'est pas plus que ça? Puisque vous avez dit 55%, moi, j'analyse en disant que, d'abord, il y a deux taux de participation. La participation à Lomé, dans le Grand Lomé, la participation en général dans la région maritime et la participation dans les autres régions. Okay? Mais si on le scinde en deux pour aller plus vite, déjà, dans une partie du Togo, au-delà de Lomé, la participation avoisine les 99%, les 98%, jusqu'à aller à 99,9% dans vos deux.
Oui, circonscription Vaudeux, bien Vaudeux. Sûr, 99,99%.
Avec
15 000.
Avec 2 nuls.
Sur les 15 000 qui ont participé, enfin, qui sont inscrits oui. sur la liste électorale, il n'y a que 2 nuls.
2 nuls.
Tout le monde a participé.
C'est aberrant. Il y a eu 2 nuls et 2 personnes qui ne sont pas allées voter dans Vaudeux. Si on voit les résultats, c'est aberrant. Donc, il ne faut pas qu'on se glorifie de ce taux de participation élevé. Encore moins de se glorifier sur ce taux de participation faible, puisque le collègue l'a dit, ce qui va arriver demain, les décisions qui seront prises vont affecter aussi bien ceux qui participent comme ceux qui ne participent pas. À part cela, vous avez évoqué aussi le fait que UNIR sort grandi, ou bien a encore grandi, ou bien a encore augmenté ses nombres de conseillers municipaux, pour le dire tout simplement comme ça.
Non, mais c'est ce que les résultats démontrent.
Voilà, pour faire quoi? C'est là la meilleure question. Pour faire quoi? Parce que on sait qu'il y a toujours, ou bien, en tout cas, ceux qui se gouvernent aujourd'hui ont toujours été dans cette posture depuis, ok? D'une façon ou d'une autre, ils ont toujours eu la majorité des leviers de gestion de ce pouvoir et de ce pays. Mais aujourd'hui, tout le monde crie que ça ne va pas. Donc, il faut que eux mêmes, comme le collègue l'a dit, ne s'en glorifient pas trop, qu'ils essayent de faire mieux que ce qu'ils ont eu à faire depuis ce temps-là.
Là, vous parlez en matière de développement, c'est ça?
En matière de développement, véritablement en matière de développement, puisque autour de cette table, au début, avec le projet que porte notre artiste, c'est quelle vision? Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce que cette victoire-là veut dire qu'on va vers une direction? C'est-à-dire, est-ce que c'était un projet contre un projet? Est-ce qu'il nous propose le socialisme contre le capitalisme? Est-ce qu'ils nous disent que dans 5 ans, il y aura des écoles et bien numériques?
Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à la raison?
Non, parce que moi, ils n'ont pas pu, cette fois-ci même, ils n'ont pas pu faire des promesses. Ouais, aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Dans nos écoles primaires, qui sont à la charge des conseillers municipaux, il n'y a même pas de bibliothèque. Il n'y a même pas les anciennes bibliothèques avec livres pour espérer que... Il n'y a même pas les secrétaires. Il n'y a même pas un secrétariat avec une dactylographie, un ordinateur pour saisir les choses. Même quand les directeurs des écoles primaires doivent faire des rapports pour aller au ministère de l'Éducation, ils vont dans les cyber. Il n'y a pas de toit. C'est-à-dire, donc, moi, je n'ai pas senti une proposition de projet qui justifie... Qui justifie bien, et qu'est-ce qu'ils avaient fait par le passé qui justifie qu'ils aient encore plus aujourd'hui. Donc, nous sommes tous dans ce pays, nous sommes des frères, il va falloir que ceux qui ont le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, fassent tout pour que nous nous réjouissons. D'accord. Pas que nous disons chaque jour que ça ne va pas.
D'accord, merci Elon. Oui, Fermin, quelle analyse vous faites alors de ces résultats?
Non, moi, la première analyse, c'est que nous sommes toujours dans un clivage gauche-droite. Clivage gauche-droite dans la mesure où, par exemple, ouais, le deuxième des résultats, c'est qui? C'est l'ANC
oui.
et l'UFC.
Et le troisième,
mais, l'UFC. Oui, l'UFC, l'ANC, c'est le même père. Dans les Kabiouni, vous imaginez, c'est Sivanus Olympio. Donc ça veut dire qu'il y a toujours le mythe Sivanus Olympio quelque part. Vous voyez, c'est-à-dire cette opposition, entre guillemets, même si l'UFC n'est plus radical, mais c'était toujours le même père avec l'ANC. C'est-à-dire ces deux frères qui se côtoient, bon, qui sont dans une certaine cordialité, peut-être quelquefois sauvage, mais qui sont toujours ensemble. Il y a des Togolais qui sont toujours ensemble, qui gardent toujours ce mythe-là. Maintenant, de l'autre côté, vous voyez, il y a Bati, il y a Tovia. Bon, a dit oui. Il y a, bon, moi, je veux m'arrêter même à ça. Bati, il y a Tovia, c'est une jeunesse, non, pas, c'est-à-dire un électorat. Qui sort un peu de ce clivage-là, mais qui s'associe peut-être à une partie de UNI. Parce que quand on voit UNI, il y a toujours, déjà, il y a toujours cette nostalgie et adhément. Il y a toujours ça, il y a des gens qui sont toujours et adhément. À l'intérieur du pays, il y a toujours des gens qui ont ça. Il y a des gens qui votent pour l'assimiler parce qu'il est père, il est fils de Yadema. Vous dites, mais aussi l'autre partie de UNI, c'est cette jeunesse-là qui n'a connu ni Yadema, ni Sivanus Olympio. Donc, c'est ça, il y a toujours les deux clivages. Il y a toujours RPT UNI, excusez-moi l'expression, et de l'autre côté, il y a toujours Sivanus Olympio. C'est comme ça le Togo est en train d'évoluer. Mais jusqu'à quand? Bon, on peut laisser, c'est notre histoire et ça va toujours continuer comme ça. Quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez faire, pour le moment, encore, peut-être dans les prochaines années, il y aura toujours Sylvanus Olympio qui va toujours parler. Et il y a toujours de l'autre côté, il y a Demain qui va parler. C'est toujours cette analyse, c'est cette analyse que moi je.
D'accord. Gabin, est-ce que par rapport au taux de participation, c'est vrai, 55,02%, et on le disait maintenant que le taux d'abstention, c'est 46%, et même des bulletins nuls qui s'élèvent à plus de 66 000. Mais attends, est-ce que ce n'est pas trop là?
C'est trop. Plus de 66 000. Plus de 8000 bulletins contestés, et il ne faut pas oublier le nombre de votes de par dérogation qu'il y a eu. Gov, dehors, nous parle de plus de 3000. Dans certaines zones, on parle de plus de 5000 votes par dérogation. Et on va me parler de d'élections calmes, sereines, que tout s'est bien passé. Non. Quoi qu'on dise, là, c'est ni à annoncer les chiffres officiels, c'est 5,02%. Mais il ne faut pas s'en satisfaire. Qu'est-ce qu'on fait des plus de 45% restants? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment se fait-il que plus de 2 millions de Togolais aient décidé de rester à la maison?
Mais est-ce que ce n'est pas un message?
Comment se fait-il que plus de 66 000 Togolais se soient déplacés pour aller aux urnes et sciemment ils font bulletin nul? Comment
vous
cela se fait?
Pour savoir que c'est
attendez. Samy, quand tu parlais, je me suis tué. Les gens, ils vont, quand tu leur poses la question, ils te disent, moi j'y vais pour avoir juste l'encre sur le doigt. Afin que, bon, peut-être si on m'interpelle quelque part à ce que j'ai voté. Il ne faut pas oublier ces réalités-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que la population se désintéresse de plus en plus des élections. Dans les normes, les élections municipales, quand on parle de gestion à la base, les populations ne devaient pas se désintéresser par rapport à ça. Mais c'est parce que les gens se disent que la plupart du temps, ce que nous votons, ça ne sort pas. Donc, à quoi bon aller encore dans les urnes pour voter? Vous voyez un peu, les gens ont préféré aller ouvrir leur boutique, les gens ont préféré aller vaquer à leurs occupations que d'aller voter. On dit que non, le Togo ne se limite pas à Lomé. Ça, c'est une vieille rhétorique. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette histoire de la région maritime compte plus de 1 300 000 électeurs qui ont été inscrits la fois dernière. C'est une grande proportion. Région maritime. Sur cette région, il y a une seule région qui a plus de 3 millions et 1 300 000 électeurs sur sa région. Imaginez un peu la proportion de cette zone-là. Quand on veut évaluer une élection, c'est par rapport à l'affluence de la capitale. C'est par rapport à l'affluence de la zone économique. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On dit 11% ont voté. Vous voyez un peu? C'est grave. Les gens se basent sur un pourcentage pour dire que non, bon voilà, il y a eu de très bonnes élections, les gens sont sortis. Mais même dans le Nord, là où le président du Sénat a voté, c'est combien de pourcentage? Sur 400 inscrits, c'est à peine 100 personnes qui ont voté. Et on va me dire que non, tout s'est bien passé, qu'à l'intérieur, il y a eu beaucoup plus d'affluence. On ne va pas me dire ça. Même si la CENI sort ce chiffre-là, mais le restant, plus de 2 millions sont restés à la maison, ils ne sont pas sortis voter. Les 66 000 qui ont fait bulletin nul, les plus de 8 000 bulletins contestés, ça avoisine déjà les 3 millions. Ça veut dire que la majorité des Togolais ne croient plus aux élections. Il faut véritablement réfléchir. Ce n'est pas une question de Unir à gagner, non. Unir avait déjà remporté la majorité des sièges en 2019. Mais, okay. Quand on fait le bilan aujourd'hui, la plupart des experts disent que ceux-là, les maires qui ont eu à mieux travailler, ce sont les mairies occupées par les opposants.
Quels sont ces
rapports? Ça veut dire que toi-même, tu es un intellectuel, tu peux faire tes analyses. Ça veut dire que quand on parle de bilan catastrophique, c'est la plupart du temps les maires unir. Maintenant, sur quel bilan les Togolais sont encore allés dans les urnes pour voter unir? Parce que quand vous êtes maire sortant, vous ne faites plus de projets. C'est vrai, les projets, ça vient à minima. Mais vous vous basez beaucoup plus sur le bilan que vous avez. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ça redonne la confiance aux citoyens de voter pour vous. Mais combien de maires unir ont pu faire leur bilan? Moi, j'ai vu certains maires défiler. Et il y a la commune du Golfe 4, dont le directeur de service technique, il est même venu ici chez vous pour faire le bilan sur tous les aspects. Il y a aussi d'autres communes qui ont fait le bilan. Mais combien de maires unir ont eu à faire le bilan?
Il y a le maire Aboka également qui a fait le bilan.
Non, la dernière fois, il a beaucoup plus fait de projets. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Mais concrètement, ce qu'il a eu à faire, c'est qu'il a dit que bon, ils ont construit leur propre siège.
D'accord, ok, merci Gabin. Oui, Mars, alors quand on prend ce taux élevé hein, de, oui. d'abstention, comment on pourrait expliquer cela?
Justement, j'allais aller sur ça, je vais ramasser tout. Franchement, quand on est dans un pays, c'est qu'en 6600 km² et que le taux d'abstention dépasse déjà les 30%, c'est qu'il y a un problème. Là, soyons honnêtes, soyons francs, ça ne va pas. Il n'y a pas eu d'engouement. Moi, j'ai vu des gens aller voter juste parce qu'ils avaient envie d'avoir de l'encre. Tout le monde le sait. D'abord, il y avait des marches, des contestations. Et les contestations, c'est quoi? En dehors de 2017, avec 19 août, Tikpi Achadam, c'est toujours à Lomé. Et quand les gens manifestent pour contester, c'est qui? C'est la jeunesse. C'est parce qu'il n'y a rien qu'on propose. Jusqu'à aujourd'hui, les gens vont voter parce que ils peuvent avoir ceci ou cela. Ce n'est pas normal. Ça ne devient plus de la démocratie. C'est de la médiocratie. Entre nous, mon frère Tchak, soyons conscients. Ça ne va pas. L'opposition a besoin d'un projet de société exhaustif. Le pouvoir aussi, il est là. Il doit comprendre l'opposition. Il faut proposer quelque chose de sérieux parce que nous sommes tous Togolais. Je reviens à ce que Firmin disait. Vous savez, nous avons toujours ce problème. Sylvanus Olympio et Adema au Togo. C'est vrai que les réalités changent, mais le fond est toujours le même. Comment quelqu'un peut se réveiller et a besoin d'avoir quelque chose avant d'aller se soigner ou avant de manger, avoir l'argent avant de se soigner, avoir l'argent avant de manger? Tu vas travailler, tu n'as même pas cet argent. Maintenant, ce travail même, tu ne le trouves pas. Et ça, c'est la majorité des Togolais qu'on ne dise pas. Tout le monde sait qu'il suffit qu'on aille, qu'on appelle des jeunes. D'abord, même ça commence, l'élection même commence dès l'enrôlement. Dès l'enrôlement à la confection des cartes d'électeurs. Beaucoup n'ont pas fait. Maintenant, nous savons ce qui se passe. Officiellement, on a dit ceci. Mais nous vivons, nous connaissons les réalités. On ne va pas les occulter. Okay. Faisons en sorte que ça aille mieux.
Merci, Mars. Oui, Samir, c'est vrai que la situation où, la situation que décrit hein, tout de suite Mars, c'est une situation sur laquelle beaucoup de Togolais aiment se prononcer ces derniers temps. Il y a même le père Séverin Dapé qui s'est prononcé là-dessus. Le père Séverin, dans ses mots, je disais même d'ailleurs, où je citais quelques mots alors du père Séverin dans cette, enfin à l'entame alors de cette émission où le père dit le Togo appartient à tous les Togolais, pas seulement au gouvernement, pas seulement à l'opposition. Et également il y a d'autres journaux qui sont revenus sur cette déclaration alors du père Séverin. Il y a le journal Le Changement qui est revenu là-dessus, le journal qui écrit situation sociopolitique au Togo, le père Séverin Dapé du diocèse de Lomé fait le procès du pouvoir en place et de l'opposition. Et également, autre journal qui s'intéresse bien sûr à cela, c'est bien le journal Actu Express qui écrit les vérités poignantes d'un prêtre catholique sur la crise sociopolitique au Togo. Et le journal cite bien sûr quelques portions de cette déclaration alors du père Séverin Gapé. Et le journal écrit, je cite, « Je vous annonce que le peuple a faim pendant que vous vous occupez de vos ventres et de vos bas-ventres. Comment pouvez-vous alors vous satisfaire de gouverner un peuple d'affamés et de tout faire pour le maintenir dans cet état ?» C'est bien sûr un extrait de la déclaration du père Séverin Dapé. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas des situations quand même qui reflètent aussi des réalités, la réalité alors du pays?
Et écoutez, Pascal, je pense que c'est l'illustration de l'exercice de la liberté d'expression. Sur ce point, je suis content de voir nos concitoyens se prononcer sur la vie de la nation. Vous avez vu notre ami, il s'est prononcé librement, il a dit ce qu'il pense sans toutefois se verser dans des insultes, dans la propagande de la haine, de la violence et tout. On l'a écouté. Le père également, il s'est adonné à cet exercice-là sans se verser dans ces délires-là que nous avons l'habitude de voir, qui ne renforcent pas le vivre ensemble et l'unité nationale. C'est une réalité que la vie devient de plus en plus dure pour la plupart de nos concitoyens. Les gens ont de faibles revenus, certains n'en ont même pas, certains ont des difficultés à manger. Il suffit d'aller souvent dans les centres de santé, dans les hôpitaux pour se rendre compte que, en fait, les gens souffrent. Quelqu'un qui est malade, qui n'a même pas les moyens pour se prendre en charge, ça veut dire qu'il y a un problème véritablement. Les autorités toutes les fois qu'elles ont eu l'occasion de prendre la parole, se sont toujours prononcées sur le sujet et disent qu'elles reconnaissent la réalité. Sauf qu'en fait, on ne va pas passer tout notre temps à dire qu'on reconnaît la réalité, on reconnaît le fait que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution durable à ce que nos concitoyens traversent véritablement? En fait, c'est ça aujourd'hui le problème. Parce que tout ce qu'ils disent là, tout ce que notre ami a dit, tout ce que le père a dit, beaucoup l'ont dit par le passé. D'autres le diront encore. C'est une bonne chose, hein, parce que c'est ça là, l'exercice de la liberté d'expression. Mais je pense qu'il est important que dans nos différentes sorties, notamment du père, qu'ils puissent explorer des pistes de solutions, en fait. Qu'ils puissent montrer un certain nombre de voies à nos gouvernants. Parce que ce qu'on a mis à la tête du pays, ils gèrent un patrimoine commun. Ce ne sont pas leurs biens personnels. Et donc nous avons l'obligation et le devoir de leur dire qu'en fait, la voie que vous êtes en train de prendre, nous pensons que ce n'est pas la bonne voie. Voilà ce que nous pensons. Parce que au sein de la population, Pascal, ça je peux vous rassurer, il y a des personnes qui sont très intelligentes, très compétentes, et d'ailleurs même qui ont des perspectives beaucoup plus intéressante que ceux qui sont à la tête du pays. Est-ce que vous savez cela?
Mais est-ce que ces gens sont audibles quand ils parlent?
Mais écoutez, vous savez que dans la société, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont le privilège de rencontrer les autorités, que ce soit dans les cadres formels ou que ce soit de façon informelle. L'Église catholique a cette opportunité-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il faut rappeler à nos concitoyens que nous n'avons pas seulement au Togo que l'Église catholique. Il y a d'autres confessions religieuses. Il y a les musulmans, il y a les animistes, et il y a toute autre confession religieuse. Et donc, je pense qu'au-delà, on doit avoir l'humilité et de reconnaître qu'en fait, on n'a pas le monopole de la parole. Ce n'est pas parce qu'on sort tout le temps qu'on a forcément la vérité de son côté. Il y a d'autres qui ne sortent pas et qui peuvent également avoir des idées qui sont contraires aux vôtres, mais cela ne fait pas de vos ennemis. On doit toujours avoir cela en idée.
D'accord. Et oui, le père Dapé a dit un certain nombre de choses que peut-être les Togolais disent même d'ailleurs tout bas. Et même ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes, on écoute quand même cela très haut, bien sûr, hein, sur ces réseaux sociaux des Togolais, bien sûr, à l'intérieur du pays, également à l'extérieur du pays, qui déjà ont ce refrain, nous avons fait. Est-ce que finalement, ces propos ne sont plus tellement audibles aux yeux peut-être alors des gouvernants?
Bon, je pense que le père a fait une très brillante sortie, qu'il en soit félicité et que la grâce de Dieu abonde sur lui. Et ça fait déjà pratiquement une semaine qu'il a fait cette sortie et c'est maintenant que les presse en parle, c'est une bonne chose. Bon, on va revenir à la même chose. Il appartient au gouvernant qui, heureusement ou bien malheureusement, qui heureusement, on peut le dire dans ce cas-ci, ont tous les leviers possibles du pays. Tous les leviers, depuis pas mal d'années. Si on peut juste s'arrêter sur les 20 dernières années ou bien sur les 40 dernières années, ils ont tous les leviers. Et pratiquement, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui sont ministres depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ok? Donc, vous voyez, il est important, il leur appartient tout simplement de prendre la mesure de ce que les gens disent et d'essayer de faire quelque chose de nouveau pour le pays. Et du moins, il est en train de venir au Togo, mais c'est des gens qui ont proposé de nouvelles choses, qui sont dans une certaine nouvelle dynamique. Ok, on voit d'autres choses au Bénin. Talon le dit tous les jours, que le développement est possible. On voit dans l'AES des gens qui disent on va se prendre en charge par nous-mêmes. Mais au Togo, sur ces questions-là, qui sont sur les lèvres de tout le monde, même des petits-enfants dans la rue, on ne sent pas nos gouvernants se prononcer. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi ce silence? Ils doivent, à un certain moment, nous écouter. Le père Gakpé l'a dit, qu'il appartient également au président de la République, qui aujourd'hui est le président du Conseil, de s'écouter lui-même. C'est un être humain, naturellement, qui veut une bonne chose pour le pays et pour lui-même. Il veut lui-même laisser une bonne image pour la postérité. Donc, il doit, à un certain moment, s'écouter lui-même, comme le père l'a dit dans ses propos. Donc, on dit souvent que la tête... Le poisson pourrit pas la tête, mais c'est la tête du poisson qui est encore plus doux. Donc il appartient, tout repose dans la main du président du conseil qui peut aujourd'hui donner une bonne direction. Et comme les êtres humains sont pas essence, tout le monde aime la bonne chose, je suis sûr que s'il donne un cap positif,
toutes ces personnes-là qu'on dit être des caciques vont le suivre pour l'accompagner à réussir sa mission. Et ne pas oublier qu'il doit aussi, tout en réussissant sa mission, préparer sa sortie. Mais avec la 5e République qu'on nous a proposée, je ne suis pas sûr qu'il est en train de préparer sa sortie.
D'accord. Le peuple a faim, tel, c'est des propos quand même que nous écoutons ces derniers temps. Mais est-ce que vous avez l'impression que les autorités écoutent justement cela?
Oui, j'ai l'impression. Vous savez, ce qui fait développer un pays, c'est deux choses. L'argent et la planification. L'argent et la planification. C'est-à-dire, ce qui fait que les pays sont en difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Si vous mettez de l'argent dans les caisses de tous les États, il y aura moins de problèmes. Et s'il y a une bonne planification, vous aurez le développement d'après sur tous les pays au monde. Bon, vous savez, moi, je me réjouis aujourd'hui d'une certaine chose. Il y a un avantage au niveau de la 5e République. Les prochaines élections que nous ferons, il va falloir attendre encore 6 ans. Ça, c'est l'avantage politique et stabilité en termes de stabilité. Attendez. Si on peut. Regardez par exemple. Le premier avantage, c'est la stabilité politique et économique. Parce que les prochaines élections que nous ferons, il faudra attendre encore 5 ou 6 ans. Si les autorités veulent, on va attendre jusqu'à 2031 pour organiser les élections générales. Regardez, les dernières élections qu'on avait faites sous la 5e République. Non, sous la 4e République, en 2018, on avait fait les élections législatives. En 2019, on avait organisé les élections locales. En 2020, on avait organisé la présidentielle. 3 élections en 3 ans. Vous allez vous développer comment? Un pays comme cela. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont proposé la 5e République, les concepteurs, ben, je pense qu'ils ont trouvé une idée géniale avec la 5e République. Ça, c'est un avantage formidable. Mais non, ça veut dire que dans 6 ans, on n'aura pas d'élection. Ça veut dire que sur le plan stabilité, nous avons déjà gagné. Sur le plan économique, vous savez, on organise en 2 ans, 3 élections, c'est 2 milliards. Ça veut dire, au moins dans 5 ans, 5 milliards qu'on peut-être aurait pu prendre pour injecter dans les élections, 5 milliards sont là, seront là. Donc on va les injecter dans le social peut-être. On va les injecter dans le culturel. On va les injecter peut-être dans l'éducatif. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, si les autorités sont conscientes du fait que le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple manque de moyens pour se soigner, je pense que cet argent-là va servir à ça. Ça, c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose, et là où je rejoins toujours notre artiste, c'est la planification. Ça veut dire que pendant 5 ans ou 6 ans, on sera un peu libre, on se concentrera sur le développement. Et puis après 2031, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il y aura des écoles, de nouvelles écoles qui vont être construites. Et en 5 ans, par exemple, il y aura des gens qui vont aller louer. Il y aura de nouveaux centres de santé qui vont être construits. Il y aura des localités à électrifier. Ça veut dire qu'on aura tout ce temps-là pour réfléchir à ça. En termes de démographie, on aura à mobiliser assez de moyens pour les petits.
Merci, Fimer.
Oui, d'abord, j'ai l'impression que c'est maintenant que le Togo est né. Vous savez, il y a un régime qui a eu à diriger ce pays-là pendant 58 ans. Tout est question de planification. Et aujourd'hui, je pense que nous devons nous rendre à l'évidence qu'on a échoué sur toute la ligne. Si les Togolais aujourd'hui arrivent à crier, nous-mêmes on crie, hein, dans nos maisons ça ne va pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir que les citoyens élisent les dirigeants pour leur trouver des solutions. Pas pour se foutre d'eux. Vous voyez un peu, il ne faut pas se montrer indifférent par rapport à son peuple. Même si c'est juste une partie du peuple qui est en train de crier, il faut apprendre à résorber ces problèmes-là. Parce que au moment où ceux-là vont devenir extrémistes, tu ne pourras plus arriver à résorber le problème. Donc, le mieux, c'est de prendre le problème depuis la base et de trouver des solutions. J'ai l'impression qu'on est dans un système où tout le monde est très catégorique. Et j'ai vu le gouvernement. Après les derniers événements, au lieu de discuter avec la population, ou bien au lieu de faire des sorties apaisantes, on a brandi beaucoup plus le bâton. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le gouvernement aussi est extrémiste. En bon père de famille, qu'est-ce qu'on devait faire? Tenir un langage apaisant, faire en sorte que les populations se sentent en confiance vis-à-vis du gouvernement. Mais ça n'a pas été fait. Plutôt, on a beaucoup plus aggravé la situation en montrant le bâton. Nous allons vous faire ceci, ceux-là qui vont enfreindre la loi. Mais ceux-là qui font des manifestations, ce ne sont pas des politiques. Ce sont des jeunes qui hier aussi avaient battu campagne pour unir. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement doit prendre toutes les mesures possibles pour résorber le problème. On est en train de crier. Le père Gakpé l'a dit. C'est très important. C'est un âgé, c'est pas de notre âge. Hein, c'est
70 ans.
Oui. C'est pas n'importe qui.
et encore un père spirituel. Cela, ils reçoivent beaucoup de personnes. Des gens qui viennent avec des problèmes de loyer, des problèmes de
tout il a dit dans la déclaration.
Voilà. Donc, ils vivent ce genre de situation à chaque moment. Et l'autre partie, nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons apprendre à apporter plainte pour certaines choses, en fait. Parce que ça fait déjà quelques jours que la connexion est restreinte. Les gens travaillent avec la connexion. L'ARCEP dit quoi par rapport à ça? Les populations sont en train de souffrir. Les gens n'arrivent pas à envoyer leurs mails. Les gens n'arrivent pas à travailler par le biais de net. C'est compliqué. Vous voyez un peu, les gens vendent par le biais des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux-là sont restreints. On va faire comment pour payer l'OTR? Et on est en train de nous parler de stabilité politique et économique. Mais écoutez, les élections, je prends juste le budget des élections en 2020, c'est 11,3 milliards. Ça représente à peine 4% du budget. Ça ne veut pas dire que les élections qu'on va organiser là, bon, c'est ça qui bouffe l'argent. Non. Les élections passées, on a dépensé de l'argent, non? Les 500 millions sont sortis. On a encore débarrassé près de 10 milliards pour organiser ces élections.
Merci,
dans 5 ans, on aura les législatives. On va encore dépenser les mêmes choses. Mais l'autre problème... 30 secondes.
Non, mais rapidement, parce que... Non,
question de la reddition des comptes, c'est très important. À quel moment le gouvernement s'est levé, on a fait les comptes des fonds qu'on perçoit au péage? À quel moment? Les ressources qu'on a, le port et tout. D'accord. À quel moment? Quand vous ne faites pas les comptes, soyez-en sûr que la population va toujours réclamer.
D'accord, plus merci beaucoup, Gabin. Marc, je voudrais que vous prononciez hein, et ouais, 30 bien. Secondes. Aujourd'hui, on a plus qu'à même pétail. Et pour ces gens-là qui disent que nous avons fait, est-ce que déjà le président du conseil n'a pas justement cet intérêt de se prononcer là-dessus hein,
il faut réduire la taille de l'habitat. Ceux qui gouvernent ne font qu'aller comme le colon a déposé. Après 90, on a mis quelque chose qu'on appelle opposition. On ne fait que se critiquer. Et maintenant, tout le monde se croit intelligent en faisant tout pour pouvoir s'insérer là-bas et puis lui aussi trouver pour lui à manger. Il faut avoir un projet de société exhaustif de résolution des problèmes du pays. C'est tout. C'est tout. Et le seul qu'il y a, je vous laisse, chacun n'a qu'à réfléchir, qu'on se voit peut-être dans 2 semaines ou dans 1 mois, qu'on se revoit et qu'on voit, qu'on réfléchisse. Il n'y a que ça. Réduire la taille de l'habitat. Avant cela, il faut mutualiser les moyens de production. Donc, laisser tous les Togolais investir dans le budget de l'État et pouvoir passer à une économie communautaire, que chacun ait tout ce qu'il faut, qu'on dégage de l'espace et que chacun travaille, que le travail soit obligatoire.
D'accord.
C'est tout.
Merci beaucoup, Mas. Et merci, chers invités. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. Ils doivent s'exprimer aussi hein, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Et c'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 63 75. Et nous faisons bien également de mettre à leur disposition notre numéro WhatsApp. Et c'est le 90 45 78 57. Ils peuvent nous écrire également sur ce numéro. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
C'est monsieur?
Monsieur Marona.
Monsieur Marona.
Monsieur Marona.
Oui, allez-y.
Comment vous allez?
Ça va, par la grâce de Dieu.
Salut, Pascal. Une salutation fraternelle à monsieur Firmin. Monsieur Pascal. Je l'ai connu en 2010. J'étais très jeune, moi je travaillais dans une ONG, je couvrais nos événements de temps en temps. À cette époque, M. Pascal, il critiquait le parti au pouvoir. Ce régime critiquait tout le monde, il parle dans une monarchie, c'est quel régime qui est dynamique au gouvernement. Mais je ne sais pas que Pascal a fini, il est devenu presque l'avocat des pensées de ce régime, mais je ne sais pas ce qui a changé. Mais bon, ce sont nos clients, bon, ce sont nos
amis. Monsieur Renard, chacun a son opinion. Je voudrais quand même que vous nous donniez aussi votre opinion.
Oui, des fois, ces analyses, ça nous fait mal, quoi.
Mais Firmin n'est pas le seul quand même à faire d'analyse sur le plateau. Oui, vous avez écouté les uns et les autres.
Monsieur Pascal, je veux dire, un régime qui dirige, qui ne veut pas qu'on le critique, est-ce que le régime accepte le changement? Un petit critique, on en fait. celui qui veut faire les choses bien là, est-ce qu'il va refuser de critiquer? Non. Celui qui veut bien faire les choses aime les critiques. Mais ceux qui les critiquent, c'est comment? Comment vous faites? Je pense que comment on peut changer?
D'accord, merci beaucoup. Oui, mais M. Mauna, il y a beaucoup de personnes en ligne. On va donner la parole aussi aux autres hein, qui sont en ligne. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui.
D'accord, allez-y.
Bon, je pense que la direction vient de passer. Bon, on a dit qu'il a tout rappelé. Il a rappelé tout ce quoi. La question... un petit peu. Parce que un an, il y a déjà un an, le Parlement, ils sont en route. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même en 2018, il avait tout rappelé. Maintenant, la question que vous nous posez, pourquoi le président ne peut pas jouer un juste démocratique? Pour qu'on sache réellement le choix de ce pouvoir même, de ce régime RPT. Nous voulons savoir son choix réel, avec une élection transparente. Avec une cellule qui n'est pas bien structurée. Regardez comment cette cellule-là s'est placée et puis en 4 minutes, on est parti à cette direction. Il faut revendiquer maintenant, il faut faire sortir les armes et tabasser les gens. Vous voyez tout ça là? Quand nous parlons du développement, effectivement, on donne les hommes du délai. Parce que Salon n'a pas trouvé toutes les communes dans sa protection. Tout le député dans sa possession avant de développer le bénéfice. Il développe le bénéfice sans coup de pioche, sans inauguration. La question que je vous ai posée, parce que c'est M. Firmin qui faisait toujours que le président pour avoir tabassé les positions, on a pris les positions. Mais quand vous dribblez, quand vous êtes un footballeur, et vous dribblez tout, vous dribblez les gardiens, il faut pousser les ballons dans les filets. Il faut que le président développe le pays. Est-ce qu'il a le souci de développer ce pays? Est-ce que c'est et quand vous voyez ce qui se passe au grand nom là-bas, dans cette période-là, je pense qu'actuellement, le président Faure a le président sénégalais, du Manchester, qui est un premier ministre, qui a pris le pouvoir d'une manière triste. Vous voyez, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le président Faure dépose un geste pragmatique.
D'accord. Merci beaucoup, Opélé, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Monsieur Gado.
Oui, monsieur Gado, bonjour.
Oui, bonjour, Plateau.
Oui, allez-y.
Eh bien, moi, j'apprécie beaucoup, monsieur Firmin, pour cette analyse noire. Ce qui me fait plaisir, le PC ne le coûte même pas. Si nous sommes, merci, monsieur, là, dans le bain, quelque part, nous tous, nous avons quitté le pays. Merci, bonne journée.
Merci, monsieur Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour, le plateau.
Oui, votre nom, c'est...
Philippe JB.
Oui, Philippe, j'espère que vous avez...
Je voudrais qu'on mette bas la terre. On dit, qui aime bien châtiquien. Une question simple. Depuis que notre cher champion, président de la République, devenu président PCM, président du Conseil, discours à la nation, impossible. Rencontre devant l'Assemblée nationale, impossible. Notre bien-aimé frère, avocat, Kossi, délégation spéciale, sans bilan. Pensez-vous que ces derniers peuvent faire bilan de leur mairie? Pas du tout. Du moment où le président de la République, passé, PCM d'aujourd'hui, n'arrive même pas à faire le bilan pour son peuple. N'arrive même pas à parler pour son peuple. Quel père peut dire ça à son peuple, à ses enfants? Aujourd'hui, on baigne dans... Je ne sais pas comment le qualifier. Hein. Tout le monde fait ce qui lui passe par la tête. On ne veut même pas le bien du peuple. Tout la souffrance du peuple. Pour la fin chronique, on va devenir quoi dans ce pays avant qu'on ne va se réveiller pour dire ça ne va pas.
D'accord. Merci Philippe pour votre intervention. Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Pascal.
Votre nom c'est
Monsieur Kossi de Sagbadou.
Ah Monsieur Kossi de Sagbadou. Allez-y Monsieur Kossi.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Merci beaucoup. Je voudrais dire un seul mot à l'endroit de notre frère Firmin. Je sais qu'il est un analyste, un journaliste chroniqueur. Et de ce fait-là, il tient toujours à jouer son rôle de chroniqueur. C'est pourquoi, des fois, ses visions, bien ses paroles, ne plaisent pas toujours à beaucoup de personnes. Mais au même moment, je voudrais dire que quand vous êtes dans un pays, on le dit souvent, où tout le monde marche sur la tête, il faudrait mieux aussi, toi aussi, marcher sur la tête pour ne pas se faire pendre. La situation que nous vivons au Togo oblige Firmin à faire un sursaut, c'est-à-dire à dépassionner, à dépasser un peu son métier. Vous comprenez, non? Pour ne pas se créer des ennemis. Parce que quand vous écoutez Firmin, j'étais une fois au tribunal quand il avait comparu dans un dossier. Et le procureur lui demandait que le rôle de chroniqueur, est-ce que c'est ça qui lui a permis de dire ceci, de dire cela?
Monsieur Kossi, allô, monsieur Kossi. Allô, monsieur Kossi.
Maintenant.
Oui, allô, monsieur Kossi.
Je vais chuter.
Non, mais je pense que vous avez déjà chuté. C'est bon. Vous avez déjà chuté. Merci beaucoup. Vous avez déjà chuté. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Restez surtout alors dans le débat. Ce que nous avons dit aujourd'hui, tout ce que nous avons dit, nous voudrons juste que vous vous prononcez aussi là-dessus. Allô?
Allô, Pascal.
Oui, Basile, comment vous allez?
Ah, c'est volontairement. D'accord. Comme les filmiers ne veulent pas que ça aille bien, nous sommes là-dedans.
Vas-y, bon. Allez-y.
Bon, c'est pour dire toujours aussi à Firmin que tout ce qu'il fait là.
Allô, Basile.
Non.
Non, Basile, s'il vous plaît.
Oui.
Basile.
Oui.
Vous avez suivi l'émission?
Oui.
Ah, mais oui, je voudrais que vous vous prononciez sur les sujets débattus. Firmin, il y a beaucoup de gens quand même autour du plateau ici.
Bon, le PCM là n'a pas terrassé quelqu'un. Au Togo ici. C'est la fuite en avant dans leur camp là-bas. Bon, ce qui fait mal aux Togolais, c'est quand on supporte ça, c'est ça qui fait mal aux Togolais. C'est la fuite en avant. On ne fait pas d'élection chez nous ici. Chez nous ici au Togo, pour le moment, on ne fait pas d'élection. Pourquoi est-ce que l'opposition maintenant arrive à m'énerver? Je ne veux pas que vous n'alliez pas aux élections. D'accord. Vous voulez aller aux élections. Cherchez une élection. Ce que vous allez actuellement n'est pas une élection. Pourquoi est-ce que vous allez toujours continuer pas dire que non, vous devez vous dire comme ça, vous ne vous proposez pas. Moi, je vous propose, à l'instar du père de la nation togolaise, Silvani Oulibio. En oui, on a pu faire une élection où on a suivi les choses et puis celui qui doit gagner a gagné. Mais vous dites qu'est-ce que vous vous proposez maintenant dans le camp là, qu'est-ce que vous craignez tellement là-bas?
D'accord.
Ce ne sont pas les hommes là-bas.
Oui, merci beaucoup, Basile. Nous avons notre dernier auditeur en ligne. Allô,
allô,
bonjour,
bonjour,
c'est monsieur Nyamavo.
Seigneur Mao.
Allez-y.
Oui, la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. C'est la même chose qu'on nous a servi. Et surtout au Togo, comme le disait un Béninois, la différence entre le citoyen et un sujet. Un citoyen a ses droits et ses devoirs. Mais un sujet n'a que des devoirs. Au Togo, on n'a que des devoirs, on n'exclame rien. Et rien ne se passe. Oui. Donc, vu les analyses des confrères qui disent que Lomé ne fait pas tout le Togo, j'ai honte. Pédagogiquement parlant, prenons par exemple le bac. Un proviseur qui se vante que les bacheliers n'ont pas bien travaillé, mais les classes inférieures travaillent bien. Mais quand ils arrivent au bac, ils ne réussissent pas. Ce qui a floc. Hein? Il ne faut pas nous servir qu'il y a des réussites en seconde, en première, mais au bac, les élèves vont échouer massivement. Ça, c'est une observation pédagogique. Ça veut dire que c'est à Lomé qui a les observateurs, c'est là-bas qu'ils circulent, c'est là-bas qu'il y a les diplomates. C'est vu que tout le monde, personne n'est sorti dans les brousses reculées derrière les fleuves où personne ne vit. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, on a vu comment les gens mettent leurs doigts à la place des absents. C'est pourquoi je félicite ceux qui ont voté des bulletins nuls. La prochaine fois, ceux qui ne veulent pas voter, ils n'ont qu'à sortir mettre des taches devant leur nom. Sinon, ça va servir aux membres du bureau de vote là, de faire ce qu'on a vu en coin à Dapan, comme dans tout là-bas.
D'accord, merci. On a tapé. Merci, monsieur Nyamavo. Merci beaucoup, monsieur Nyamavo, puisque notre temps nous presse. Et nous avons, enfin, c'est le monsieur Nyamavo, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Il y a un auditeur, bien sûr, qui nous a écrit. Il y a beaucoup d'auditeurs, même d'ailleurs, qui nous ont écrit. Bonjour à tous sur le plateau. J'aimerais me prononcer sur le sujet des élections. Presque tout le monde dit dans le pays que rien n'y va et tout le monde crie à la mauvaise gouvernance. Maintenant, qui leur a voté jusqu'à avoir ce taux de pourcentage? Mais soyons un peu sérieux à un moment, c'est Noël depuis Noutafou. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Gabin, vous avez 30 secondes, puisque notre temps talonne. 30 secondes, oui, Gabin.
Oui, j'aimerais remercier notre artiste pour ses idées et je l'encourage à continuer dans ce sens-là et surtout de se faire entendre, de frapper à toutes les portes possibles, de se faire entendre parce que c'est un projet très innovateur. Et merci de m'avoir invité.
Merci à toi.
Que Dieu bénisse le Togo.
Merci beaucoup. Oui, Fémin.
Donc merci à tous ceux qui sont intervenus. Moi, je voudrais juste dire une petite chose. Vous savez, au Togo, on aime imposer le fait de faire le journalisme. Comment faire le journalisme, c'est ce qu'on aime nous imposer. Vous imaginez, quand moi j'ai commencé par écrire des chroniques, moi j'ai commencé par critiquer sévèrement le pouvoir. Et après avoir critiqué sévèrement le pouvoir, je suis tombé sur l'opposition, j'ai souvent critiqué sévèrement l'opposition. Et maintenant, je suis arrivé à un moment où je critique l'opposition, je critique le pouvoir. Maintenant, quand je critique le pouvoir, les gens disent non, tu es un bon journaliste, c'est toi ça. Mais quand tu critiques l'opposition, on dit que tu as acheté. Moi, je n'ai pas fait tout journalisme. Moi, je veux être objectif dans ce que je fais. Je veux être libre. Je critique le pouvoir. Quand je veux, quand je vois qu'il y a des éléments de critique, je critique. Sur cette athlète, parce qu'on ne critique pas le pouvoir, on critique le pouvoir, on critique l'opposition. Nous, on veut être libre. Ne nous imposez pas votre manière. Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas un acteur de la société civile. Je ne suis pas un politicien.
Ni un activiste.
Donc, je suis simplement journaliste et je fais mon travail.
D'accord.
Journaliste.
Merci beaucoup, Firbin, de nous avoir rappelé que tu n'es pas un activiste et que tu n'es pas un acteur aussi
de la société
civile. D'accord, merci. Oui, Elon.
Oui, moi je vais dire deux choses. La première chose, c'est que à l'heure où nous parlons, il y a Diomaye Faye qui est au Togo. Il représente la rupture au Sénégal. Donc j'espère que le président de la République, nouvellement
Le
président du Conseil va pouvoir, si c'est possible, va pouvoir incarner la rupture. Vous savez, je l'ai dit tantôt, le poisson ne pourrit pas la tête et c'est la tête du poisson qui est la plus douce. Donc, il est le seul capable aujourd'hui à changer le Togo, à incarner une rupture. Il est important, face aux manifestations et aux cris de désolation des populations, qu'il invite les acteurs politiques pour mettre le Togo sur les rails.
D'accord. Merci. L'homme, oui, Samir.
Mais écoutez, Pascal, je voudrais dire trois petites choses. La première chose, c'est que voter par dérogation n'est pas contraire à la loi. On peut voter autant de fois par dérogation qu'on le veut. C'est la loi qui le permet. C'est normal, bien sûr, c'est normal qu'on ait des bulletins nuls, qu'on ait des bulletins contestés. C'est la réalité. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de Togolais supérieur à l'autre. Le Togolais qui est à Lomé n'est pas supérieur à celui qui est à l'intérieur du pays. Et le taux de participation aux élections, quand vous regardez dans la sous-région, vous ne verrez pas un taux de participation de 70%, ni de 80%, ni de 90%. Donc, souffrons qu'on puisse se familiariser avec ces taux de participation, même si au-delà, on doit pouvoir se questionner. Le troisième et dernier élément, la reddition des comptes. Les mairies, c'est dans chaque commune. Eux-mêmes ne peuvent pas venir faire le compte à tous les Togolais. Et puis, eux-mêmes n'est pas obligé de venir sur une radio pour faire le compte. Le compte de la gestion donc de la mairie. Donc il y a des outils appropriés pour rendre compte à ces
citoyen de sa mairie. C'est catégorisé. Et par rapport aux sociétés d'État, il y a des institutions qui font de l'audit. Maintenant, après, on peut débattre sur ce qu'on en fait des rapports.
Merci Samir, parce que vous avez déjà dit les trois choses. Oui, Max, rapidement.
Je crois que c'est un mot de fin. Nous sommes à l'heure où chacun doit prendre conscience que réellement les débats politiques arrivent à être fins parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de compréhension. Mais on a un seul niveau, l'épanouissement, de jouissance de son épanouissement, de sa dignité. Et pour ce faire, il faut réduire la taille de l'habitat.
Vous tenez bon à cela.
Il faut le faire.
D'accord. Merci beaucoup, Mas Neumann Boyodé. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes artiste et vous nous avez dévoilé votre projet de société dans cette émission. Et c'est bien sûr la réduction de la taille de l'habitat. Merci d'être passé. Merci Gabin Adjaro, analyste politique, juriste aussi. Merci d'être passé dans cette émission. Firmin, merci d'être passé. Journaliste, chroniqueur et analyste politique également. Merci d'être passé. Et l'homme d'Al merci d'être passé dans cette émission. Vous aussi, vous êtes analyste et aussi alors conseiller régional. Merci Samy Oro Sama d'être passé dans cette émission, analyste politique. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Thomas était aussi d'ATV à assurer la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutia. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.